Bonsoir. Un nouveau samedi en jaune pour plusieurs dizaines de milliers de manifestants, sans doute un peu moins que samedi dernier, mais partout en France, toujours aussi motivés. Les centres-villes ont été le plus souvent interdits aux manifestations et après quelques échauffourées, les cortèges ont été dispersés dans le calme, le point dans un instant sur les temps forts de ce 20e acte. Ils étaient aussi plusieurs milliers d'enseignants et de parents d'élèves à protester aujourd'hui contre le projet de loi Blanquer qui permet notamment de regrouper un collège et des écoles. Les syndicats dénoncent également l'autoritarisme du ministre. Une ex-ministre qui se lance dans la campagne des européennes, la tête de liste La République En Marche, Nathalie Loiseau, tenait tout à l'heure son premier meeting en espérant faire oublier les quelques ratés du départ. Dans ce journal également, trois morts sur la frontière entre Israël et la bande de Gaza, où des dizaines de milliers de Palestiniens ont bravé les soldats de Tsahal. Les anti-Brexit qui donnent de la voix sur la ligne de partage entre les deux Irlandes. La finale de la Coupe de la Ligue, Guingamp-Strasbourg, tout à l'heure à Lille. Une heure de sommeil en moins la nuit prochaine, on se met à l'heure d'été et ça tombe bien. Les températures restent confortables demain pour la saison, même si le temps se gâte un peu dans la moitié nord. Des centres-villes interdits aux manifestations, des manifestants qui viennent braver les forces de l'ordre et les autres, la grande majorité qui défile dans le calme. Pour ce 20e samedi en jaune, c'est à peu près le même scénario que la semaine dernière qui s'est reproduit en moins dense et de façon, disons, moins tendue. On fera le tour dans un instant. Un mot d'abord de la situation à Paris où le secteur des Champs-Élysées était à nouveau bouclé. Plusieurs rassemblements avaient été déclarés dans la capitale où les manifestants se sont finalement regroupés entre le Trocadéro et la Tour Eiffel avant d'être dispersés, Manon Derdevet.
Oui, il n'y a actuellement plus aucun manifestant sur l'esplanade du Trocadéro. Les Gilets jaunes avaient tout prévu pour que cette 20e manifestation se passe au mieux. Ce matin, j'ai rencontré Pierre. Il était devant la gare de l'Est dès 10h et il avait même déposé le tracé de la manifestation en préfecture. Pour lui, il est très important que toutes les manifestations des Gilets jaunes se déroulent sans violence.
Pour effectivement qu'on ait un cadre, non seulement pour cette région, mais aussi pour que tout le monde puisse venir, qu'il n'y ait pas de problème de personnes âgées, comme le problème d'un lice, là, que ça puisse pas arriver ici. Dans le cadre d'une manifestation. Donc, moi, personnellement, je pense que le fait de se retrouver, qu'il y ait des gilets jaunes encore en permanence dans les rues de Paris, même si c'est pacifique, ça met assez de pression sur le gouvernement. Il n'y a pas besoin de violence.
Et hormis quelques échauffourées en fin de manifestation, quand les gendarmes mobiles ont essayé de disperser les manifestants, la manifestation est restée calme pendant toute la journée. Certains manifestants avaient même organisé des rondes dans lesquelles tout le monde pouvait danser, pouvait sourire ensemble au soleil. Rien à voir donc avec les affrontements il y a deux semaines, ici même à Paris.
Manon Derdevet au Trocadéro avec Raymond Albouilly. À 17h, il y avait eu 32 interpellations à Paris et 21 verbalisations dans le périmètre interdit. La préfecture de police annonce avoir procédé à plus de 11 000 contrôles préventifs en amont des manifestations. Partout en France, les Gilets jaunes ont donc été nombreux encore à manifester, un peu moins visiblement que samedi dernier, mais de façon toujours très dispersée. Béatrice Duguay.
Mobilisations qui ont ressemblé à celles du début du mouvement août février. Pas mal de petites et moyennes manifestations en France, au Havre, à Troyes, à Dijon, à Toulouse, à Hendaye.
On a commencé à 200, on termine à 80. On a perdu quelques gilets jaunes qui sont rentrés chez eux.
Retour sur un péage aussi à Poitiers.
Vous entendez le bruit de la gratuité? J'adore.
Deux fois de voies bloquées entre Brest et Quimper par des manifestants qui voulaient rejoindre la poudrerie de Pont-de-Buis qui fabrique des gaz lacrymogènes. Sinon, les situations se sont tendues là où il était un peu annoncé qu'elles le seraient à cause des interdictions. Bordeaux, bien sûr, où plus de 5000 personnes sont parvenues aux abords de la mairie en centre-ville, repoussées par les forces de l'ordre à coups de lacrymogènes.
À la Pécou.
Même chose à Avignon, près des remparts. Gilets jaunes repoussés à intervalles réguliers. Une voiture de police a été caillassée par des individus cagoulés. À Saint-Étienne, plusieurs milliers de personnes ont tourné autour du centre-ville, interdit, dans une atmosphère tendue, feux de poubelle et incendies le long des voies de chemin de fer. Abribus cassés, manifestants blessés apparemment ce soir. 2000 manifestants à Épinal encore, où quelques barricades ont été dressées et incendiées, lacrymogènes de sortie. Et puis, barricades aussi au pied du château de Caen avec des vitrines. vitrine brisée.
Béatrice Duguay. Il n'y avait pas que les gilets jaunes aujourd'hui dans les rues de France contre le projet de loi Blanquer. Ils ont été plusieurs milliers d'enseignants et de parents d'élèves à défiler pour exprimer leur défiance envers ce texte de loi intitulé « Ça tombe mal pour l'école de la confiance ». Le texte voté par l'Assemblée doit être discuté au Sénat au mois de mai. Pour les 5 principaux syndicats de l'éducation nationale et la Fédération des parents d'élèves FCPE, il fait peser une menace sur les directeurs d'école. Manuel Ruffez était dans la manif parisienne.
La loi Blanquer, c'est mortifère. Derrière une immense banderole contre la loi Blanquer, pour une vraie ambition pour l'école, les leaders syndicaux ne cachent pas leur satisfaction. Ils annoncent plus de 8000 manifestants ici à Paris. Le mécontentement et l'incompréhension se traduisent en mobilisation, constate-t-il. Le ministre doit revoir sa copie, dit Bernadette Groison de la FSU.
Il faut retirer ce projet de loi ou le suspendre. En tout cas, il faut le mettre de côté. Il faut reprendre les discussions avec l'ensemble de la communauté éducative, notamment, bien évidemment, les parents d'élèves. Il faut repartir sur de meilleures bases. Vous savez, la confiance, ça ne se décrète pas. Il ne suffit pas d'écrire un titre dans une loi, ça ne marche pas.
Ils craignent une école à plusieurs vitesses, de l'argent public pour financer l'enseignement privé ou encore le rapprochement collège-école en une seule entité et la disparition des directeurs d'école. Dans le cortège, les parents sont là aussi avec leurs enfants.
On veut se montrer solidaire avec les professeurs, montrer que ce n'est pas juste les profs qui viennent râler pour leur salaire, mais qu'il y a autre chose. Aujourd'hui, il y a beaucoup de parents, il y a beaucoup d'enfants dans la manifestation, ça montre qu'il y a un problème et une prise de conscience. Demain, si les petites écoles de mes enfants sont regroupées avec le collège qui fait déjà plus de 1000 élèves, ce sera une catastrophe au niveau de la gestion des classes, des budgets, des rencontres avec les parents.
Touche pas à mon école.
Et ce n'est que le début, annoncent les manifestants qui se sont déjà donné rendez-vous jeudi prochain pour une grève et une manifestation nationale.
Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, s'est dit prêt à rajouter dans la loi le principe du consensus local. Le fait qu'un regroupement entre un collège et des écoles ne pourrait se faire qu'avec l'accord des équipes éducatives. En politique, endosser les habits d'une tête de liste, c'était l'enjeu du premier meeting de Nathalie Loiseau, tout à l'heure au doc de Paris à Aubervilliers. L'ex-ministre des Affaires européennes, désormais numéro 1 de la liste République En Marche, a 2 mois maintenant pour préciser son projet, redonner envie d'Europe et pour commencer à se faire connaître du grand public. Karine Bécard, tout n'était pas bien parti au moment de présenter sa liste. On se souvient des incidents de la soirée, l'estrade qui s'effondre, l'animateur qui ne connaissait pas les candidats. Alors le show était-il mieux rodé cette fois ?
Oui, cette fois le show était parfaitement rodé, pas la moindre fausse note. Le nom et la fonction de chacun des colistiers ont été méthodiquement présentés et surtout sans se tromper devant quasiment l'ensemble des membres du gouvernement, devant tous les responsables de la majorité, sans oublier tous ceux également désormais des partis ralliés. Beaucoup de monde donc, beaucoup d'énergie aussi, impressionnant forcément pour tous ces candidats qu'ils sont pour la première fois, comme Stéphane Bijoux.
Depuis tout à l'heure, je vous écoute, je vous entends. Et j'entends battre vos cœurs, et ils font battre mon cœur. Cette énergie, votre énergie, c'est ce qui me permet d'être debout devant vous aujourd'hui.
Alors certains discours tout de même ont été un peu plus politiques. Pascal Canfin notamment a pris soin de mettre les choses au point. Non, ce n'est pas antinomique de mettre sur une même liste un agriculteur et un écologiste.
Avec Jérémy et avec Irène, on va construire un projet et porter ce projet. Et je veux le dire aux agricultrices et aux agriculteurs de France, on va le faire ensemble. Parce qu'on veut sortir de la guerre culturelle toxique et stérile entre les écologistes et les agriculteurs.
Et puis pour finir, baptême du feu bien sûr de Nathalie Loiseau, premier discours de campagne pour la tête de liste d'une 40aine de minutes. Un objectif manifestement, montrer qu'elle était capable de cogner de sa voix douce à l'attaque ses adversaires politiques.
Trop souvent, trop longtemps, parfois encore maintenant, de vieux partis fatigués ont construit leur liste aux européennes à coups de recasage et de replâtrage. Pas nous. Ne les sifflez pas. Battons-les.
De la bienveillance tout de même, comme en résonance des meetings d'Emmanuel Macron pour la présidentielle. Emmanuel Macron qui est celui, mois après mois, qui a défini le programme pour cette Europe dont le destin doit être repris en main. Bref, dans la majorité, la bataille est cette fois bel et bien lancée.
Karine Bécard avec Olivia Branger pour les moyens techniques.
Le journal de 19h sur France Inter.
À l'étranger, des dizaines de milliers de Gazaouis sur la frontière israélienne ce 30 mars, un an tout juste après les marches du retour. La mobilisation qui visait à briser le blocus de Gaza, les Palestiniens, notamment les jeunes, ont de nouveau fait face aux soldats de Tsahal, dont la riposte n'a pas tardé. 3 manifestants ont été tués, 100 blessés. Mais rien à voir avec la catastrophe annoncée, comme si le Hamas avait voulu donner sa chance à un nouveau cycle de discussions avec Israël. Sur place, le correspondant de France Inter, Étienne Monin.
Sur la plaine de Malaka, à l'est de Gaza, on retrouve les ingrédients et la mobilisation des grands jours de manifestation, avec cette fois en plus un service d'ordre habillé de chasubles orange.
On est là d'abord pour que la marche soit pacifique. On n'a pas besoin d'un bain de sang aujourd'hui.
Cette manifestation est donc très contrôlée. Le Hamas retient l'intensité. La foule reste à bonne distance du grillage israélien. Il n'y a pas de pneus en feu, pas de cerf-volant enflammé qui empoisonne les Israéliens, regrette Mahmoud Abou Tamer, visiblement frustré.
C'est le Hamas qui ne veut pas qu'on brûle de pneus. Nous, on voulait, on veut aller de l'autre côté de la frontière, on veut lever ce blocus-là, on ne veut pas rester ici.
Cette retenue permet au Hamas de poursuivre des négociations avec Israël. Le mouvement islamique espère arracher des avancées économiques et humanitaires. La manifestation d'aujourd'hui apparaît donc comme un fragile pacte de non-agression mutuelle dans le contexte des élections législatives israélienne qui arrive dans 10 jours. Gaza, Étienne Monin, France Inter.
Le pape au Maroc pour la liberté de conscience et de religion devant des milliers de Marocains rassemblés à Rabat. Le roi Mohamed VI à ses côtés, le souverain pontife a lancé un appel aux croyants, tous les croyants, pour qu'ils vivent en frères. En visite pour 2 jours au pays de l'islam modéré où les catholiques ne sont pas plus de 30 à 40 000, dont d'ailleurs beaucoup de Français, le pape François et son hôte ont plaidé pour le renforcement du dialogue interreligieux. À Londres, au lendemain du nouveau No des députés qui ont rejeté pour la 3e fois l'accord de divorce avec l'Union. La première ministre, plus que jamais sous pression, continue à chercher la porte de sortie. Son propre camp l'exhorte à refuser un long report du Brexit en actant le départ au 12 avril ou très peu de temps après. Pas de cet avis les Irlandais qui manifestaient encore cet après-midi sur la frontière, ou plutôt sur la ligne de séparation qui n'est plus une frontière mais pourrait le redevenir entre les deux Irlandes, Julien Lagache.
À la tribune, les intervenants se succèdent pour dénoncer ce qu'ils considèrent être un Brexit sans objectif, mais qui se fait au détriment des communautés frontalières en Irlande, car en cas de divorce sans accord, cela mettrait en danger le commerce, notamment celui de Stephen Murphy dans la restauration.
Je traverse tous les jours la frontière sans problème, elle est invisible. Je transporte de la nourriture, des repas. Mais que se passera-t-il si on remet une frontière? Est-ce que je dois déménager d'un côté ou de l'autre? C'est un vrai bazar.
Le monde économique est sans doute celui le plus inquiet car le commerce entre les deux Irlandes est important. Mais le Brexit finit par lasser plus de 2 ans et demi après le vote, explique Mary Barry, venue de Dublin pour montrer sa solidarité.
Je crois que l'incertitude est pire que le divorce lui-même. Personne n'est préparé. Une infirmière vient d'expliquer que dans son hôpital, on a commencé à faire des stocks de médicaments, au cas où il en manquerait, et qu'il ne pourrait pas franchir la frontière après un Brexit sans accord.
Des scénarios catastrophes qui, pour ces communautés, semblent bien réel, surtout à moins de 2 semaines d'un potentiel Brexit dur. Julien Lagache, à la frontière entre les deux Irlandes, France Inter.
Et le temps presse pour le gouvernement de Londres. Le président du Conseil européen, Donald Tusk, a convoqué un sommet extraordinaire pour le 10 avril. Aux États-Unis, la nouvelle campagne de George Clooney, l'acteur américain connu pour ses engagements multiples, part en guerre cette fois contre le sultanat de Brunei, petit état pétrolier d'Asie du Sud-Est, où à partir du 3 avril doit s'appliquer intégralement la charia. Ce qui veut dire, écrit Clooney dans une tribune sur Internet, qu'on pourra lapider et fouetter à mort n'importe quel citoyen convaincu d'être homosexuel ou d'avoir commis l'adultère, et l'acteur d'appeler en conséquence au boycott des hôtels de luxe appartenant au sultanat, 9 hôtels dans le monde, dont le Meurice et le Plaza Athénée à Paris. Loïc Lourie à New York.
Le Dorchester de Londres, le Bel Air de Los Angeles, mais aussi le Meurice et le Plaza Athénée à Paris. Au total, 9 hôtels de luxe dispersés à travers le monde et tous propriétés indirectes du sultan de Brunei. George Clooney le confesse, l'acteur a séjourné dans la plupart d'entre eux. Je n'avais pas fait mes devoirs, dit-il, et j'ignorais qui les possédait. En l'occurrence, une petite monarchie située sur l'île de Bornéo, 430 000 habitants, où la charia s'impose progressivement depuis 2013. Soyons clairs, dit l'acteur, à chaque fois que nous prenons une chambre dans l'un de ces hôtels, nous mettons de l'argent dans la poche d'hommes qui choisissent de lapider et de fouetter à mort leurs concitoyens homosexuels ou accusés d'adultère. L'acteur, toutefois, n'est pas naïf. Un boycott, reconnaît-il, n'aura certainement que peu de conséquences. Vous ne pouvez pas faire honte à ces régimes meurtriers, dit-il, mais vous pouvez faire honte aux banques ou aux institutions qui font des affaires avec eux en choisissant de détourner le regard. New York, Loïc Loury, France Inter.
Le gouvernement de Brunei a répondu par communiqué que le pays avait un double système judiciaire et que la loi islamique ne s'appliquait qu'aux musulmans. En sport, une finale de la Coupe de la Ligue sans le PSG qui l'eût cru après 5 victoires. Ces 5 dernières années, les Parisiens se sont fait surprendre par Guingamp, qui sera donc à leur place sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy à Lille face à Strasbourg tout à l'heure, avec une place possible en Ligue Europa pour le vainqueur. Ça vaut le coup de se battre. Les supporters des deux camps y croient, bien sûr. Cédric Guillou, vous êtes déjà devant le stade.
Oui, dans le stade même, Yves, pour ce match qui aura lieu maintenant dans un petit peu moins de 2 heures. Et c'est vrai que ça monte hein, doucement mais sûrement au niveau de l'ambiance ici dans ce stade Pierre-Mauroy de Lille, avec les supporters des deux équipes qui s'installent, on va dire, depuis une petite heure maintenant dans les tribunes. Alors l'avantage du nombre ce soir pour les supporters alsaciens, qui seront bien plus nombreux que les Guingampais. 25 000 supporters de Strasbourg attendus pour ce match, alors que les Guingampais seront environ 15 000. Un stade qui sera donc plus bleu strasbourgeois que rouge Guingampais. Des supporters qui, vous le disiez, sont bien conscients que c'est une très très belle opportunité pour leur équipe de gagner un titre, parce que sur cette dernière saison, c'est vrai que c'était le Paris Saint-Germain qui gagnait toutes les coupes nationales, que ce soit cette Coupe de la Ligue mais également la Coupe de France. PSG qui a été sorti en quart de finale par Guingamp, le PSG absent d'une finale d'une coupe nationale pour la première fois depuis 2014, et ce sera donc dans moins de 2 heures le coup d'envoi d'une finale inédite et sans doute très animée entre Strasbourg et Guingamp.
Voilà, 21h, stade Pierre-Mauroy à Lille. Et puis tout à l'heure, l'OM a concédé le nul sur son terrain contre Angers, 2-2 partout, c'est la Ligue 1 bien sûr. L'OM qui s'éloigne encore un peu plus du podium. Allez, ce n'est pas encore la dernière fois, peut-être l'avant-dernière. On passera cette nuit à l'heure d'été, à 2h, il sera 3h, ce qui veut dire 1 heure de sommeil en moins, en attendant que peut-être en 2021, on ne touche plus à rien en restant toute l'année à l'heure d'été. Ce qui suscite d'ailleurs autant de débats déjà que le changement d'heure lui-même, comme ici sur ce marché de Lézignan dans l'Hérault, Stéphane Porcher.
Forcément, ce changement occupe les conversations sur la place du village, car le soleil va se lever plus tard l'hiver, et ce n'est pas forcément du goût de Victor, ostréiculteur à Metz.
Ça va devenir problématique, ouais. Le fait que le soleil se lève à 9h45, qu'on va perdre 1h30 de vente sur tous les marchés. Ça aura forcément un impact énorme, hein. Les gens qui se lèvent avec le soleil, ils vont se lever beaucoup plus tard.
A l'inverse, le fleuriste Fabrice n'est pas du tout du même avis, car l'hiver, quand la nuit tombe trop tôt, il y a moins de monde dehors.
Ça permet de travailler à partir de 6h, c'est pas mal aussi pour le soir.
Les avis sont très partagés. Kevin, le maraîcher, s'installe l'hiver sur les marchés vers 7h. Pour mettre tout le monde d'accord, il a bien une petite solution.
Il faudrait décaler les horaires de tout le monde, parce que les gens qui partent au travail viennent avant ou après, les gens qui amènent les petits à l'école, pareil, se calquent par rapport à ça, donc faudrait tout décaler.
Pour Monique, 75 ans, l'heure d'été, l'hiver, c'est parfait, dit-elle.
Non, parce que je me lève toujours tard.
Ce retour en arrière, c'est parfait, expliquent Brigitte et Janine, mais elles sont plutôt matinales.
Il faudrait mieux qu'on voit le soleil un petit peu plus tôt. Ce l'heure d'été, c'est quand même un peu pénible. Hein,
et les gens qui travaillent dehors, il faut penser quand même aux paysans et tout. Moi, j'avais un papa qui était viticulteur, et quand ça a passé à l'heure d'été, il n'aimait pas du tout.
Bref, vous l'aurez compris, on n'a pas fini d'entendre parler encore pendant des années du changement d'heure saisonnier qu'il fallait ou pas changer.
En attendant de changer d'heure, on se met à l'heure de la Terre ce soir avec le WWF, opération toute symbolique. Mais les symboles, c'est important. On est prié d'éteindre les lumières pendant une petite heure à partir de 20h30. La tour Eiffel elle-même sera éteinte. Le temps.
La météo avec Préfonds, la retraite et la prévoyance de la fonction publique. Les jeunes fonctionnaires font le bon calcul sur préfonds-retraite.fr.
Jean-Michel Golinski.
Changement demain pour les régions proches de la Manche, avec l'arrivée d'un ciel souvent nuageux entre la Belgique et la Bretagne, éventuellement ponctué d'ondées éparses et poussé par un vent de nord-est désagréable qui va maintenir une certaine fraîcheur côtière. Et l'après-midi, par les Pyrénées, le ciel va également s'ennuager jusqu'aux plaines du sud-ouest en soirée. Alors que partout ailleurs, c'est le maintien d'un temps très ensoleillé, avec le matin des entrées maritimes du golfe du Lion à la plaine toulousaine à la faveur d'un vent d'autan modéré. Les températures souvent comprises de matin entre 4 et 8 degrés, un peu moins avec des gelées blanches possibles de la Bourgogne à la frontière allemande et en basse vallée du Rhône, vont conserver l'après-midi un niveau élevé pour la saison, entre 18 et 22 en général, mais un peu moins sur les côtes de la Manche, avec par exemple 13 à Cherbourg et à Calais.